Quelle merveilleuse parole que celle que nous venons d'interpréter. L'amour de Dieu, si grand, si tendre. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, on va ouvrir à nouveau ce matin ta parole ensemble, qui est, comme tu nous l'affirmes, vérité, lumière et vie, une boussole ô combien précieuse sur notre route. C'est vers toi que nous nous tournons ensemble à nouveau. Nous tournons le regard celui de la foi et voulons élever nos voix afin de te dire la reconnaissance de nos cœurs parce que c'est toi qui nous l'as donné. Tu nous l'as donné car tu désires nous révéler à nous et nous indiquer le chemin à suivre dans un monde qui aujourd'hui, plus que jamais, est comme nous venons de le chanter dans l'angoisse, tremble et vacille sur ses bases parce que les jours sont mauvais. Tu nous l'enseignes. Oui, Père, merci pour ta parole éternelle. Merci parce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher de toi avec assurance, nous mettre à son écoute et te dire, Seigneur, Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions, conduits par ton Saint-Esprit, contempler les richesses, les merveilles de ta loi, les accueillir avec joie dans nos cœurs et jour après jour, les appliquer dans nos vies. C'est là, Seigneur notre Dieu, la grâce que nous te demandons. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est la parole éternelle, faite chair et qui habite en nous. Amen. Je vous invite ce matin à m'accompagner dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, texte bien connu de tous, Matthieu 16, versets 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Voilà pour le moins des paroles lourdes de sens et de conséquences, et qui sont d'autant plus interpellantes qu'elles sont adressées, non pas à tout un chacun, non pas, dirions-nous aujourd'hui, à l'homme de la rue, mais aux responsables religieux de la nation d'Israël, à des hommes et qui connaissaient et qui étaient versés dans les Saintes Écritures. Les premiers nommés, vous l'aurez remarqué, sont les pharisiens qui formaient l'un des trois partis religieux d'alors, dont l'apôtre Paul fut, avant sa conversion à Jésus-Christ, l'un des adeptes les plus fervents. Souvenez-vous qu'il dira dans le livre des Actes, au chapitre 26e, « J'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. » Une secte que, si l'on en croit les historiens et les commentateurs de la Bible, très probablement est née avant l'apparition des Maccabées, également appelés les Asmoniens, qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, ont délivré, libéré le peuple d'Israël du joug cruel et pesant des Syriens. Les pharisiens défendaient la doctrine de la prédestination, de l'immortalité de l'âme, de la résurrection corporelle, de l'existence des esprits, des récompenses et des sanctions dans l'au-delà. Ce à quoi, bien sûr, nous sommes prêts à donner sans hésitation notre main d'association. Mais cela étant, nous devons ajouter que très rapidement, leur piété est devenu formaliste, tant et si bien qu'ils en étaient arrivés à penser, à considérer que la disposition du cœur à l'égard des choses de Dieu était moins importante que l'acte extérieur. Quant au sein du Seigneur, il formait un mouvement plus important en nombre, reconnu pour être plus riche, plus instruit, et étaient les détenteurs des fonctions publiques. L'histoire nous rapporte que cette secte est née au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous un certain Sadoc, pour qui la loi écrite était dominante. Les Sadducéens étaient donc attachés à la lettre des Écritures, mais cela ne les empêchait pas pour autant de les interpréter à leur guise, au gré des circonstances et des événements. Contrairement aux pharisiens, ces derniers niaient la résurrection, les rétributions dans l'au-delà, affirmant que l'âme meurt en même temps que le corps. Nous sommes donc ici face à deux groupes religieux, adorateurs du même Dieu, qui présidaient à la vie spirituelle du peuple d'Israël, mais qui, à cause de leurs convictions, de leurs enseignements diamétralement opposés, sont devenus très rapidement des ennemis jurés. Jean-Baptiste les appellera race de vipères, tandis que Jésus dénoncera leur orgueil, leur hypocrisie et leur négligence des éléments essentiels de la loi, ce qui, tout naturellement, a fait de lui l'homme à abattre, l'ennemi public numéro un. Et ce n'est certes pas le texte que nous venons de lire ce matin qui nous contredira, puisqu'une fois encore, ces deux frères ennemis feront fi de leur divergence de vue, de tout ce qui les oppose et d'un commun accord. Lisons-nous, abordèrent Jésus, notre Sauveur, afin de le mettre à l'épreuve en lui demandant « Fais-nous voir un signe venant du ciel ». Des signes venant du ciel, les hommes de tout temps, nous le voyons dans les Écritures, les ont demandé à Dieu. Et c'est ainsi que sera, souvenez-vous, scellé par un signe la promesse faite à Abraham d'un pays. Il en sera de même quant à l'appel de Dieu adressé à Moïse dans le désert, tout comme pour Gédéon, alors qu'il battait du froment au pressoir. Sans oublier ce miracle extraordinaire, cette guérison du roi Ézéchias. Et ainsi, nous pourrions ce matin multiplier les exemples et rappeler entre autres le fait que Dieu lui-même l'a proposé aux hommes. En tout cas, à un homme, je pense ici au roi Juda nommé Achaz. Au chapitre 7 du livre d'Ésaïe, nous lisons à ce sujet ceci. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux hauts. En d'autres termes, tu as le choix, je te le donne. Et sache que ta demande te sera accordée. Mais à notre grande surprise, repoussant l'opportunité qui leur était offerte, le roi Achaz répondit, Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ainsi donc, pour ce monarque, demander un signe en sa faveur, en vue de satisfaire son incrédulité, comme ont voulu le faire les pharisiens et les sadducéens, son orgueil, ou que sais-je encore, ou pour une quelque autre raison, et non par l'honneur, la gloire du Dieu d'Israël, une telle démarche, une telle demande s'apparentait pour lui au péché. C'était tenter l'Éternel. Ce que Jésus, souvenez-vous, a stigmatisé lors des 40 jours et 40 nuits qu'il a passés dans le désert, où il fut, comme chacun le sait, tenté par Satan. Je ne tenterai pas l'Éternel. Je me refuse de courir un tel risque, pouvait dire Achaz. Une attitude de cœur qui visiblement importait peu aux pharisiens et aux sadducéens, démunis, dépourvus de toute crainte, ils abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lisons-nous verset 1er. Et c'est pourquoi la question qui d'entrée s'impose alors à nous est la suivante. Et pourquoi ? Oui, pourquoi donc éprouver celui qui, nous le voyons quelques versets plus haut, dans ce même chapitre, vient de guérir des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades, est-il encore écrit ? Sans oublier les 4000 hommes, sans compter bien sûr les femmes et les enfants qu'il venait de nourrir. Jésus était un bienfaiteur. Alors pourquoi ? Eh bien, pour essayer de répondre au mieux à cette question, nous devons nous souvenir entre autres que si, durant son ministère terrestre, public, la popularité de Jésus est allée croissant, au point où la foule le précédait même au lieu où il se rendait, est-il écrit, tant elle était avide de ses miracles et de son message, il en fut tout autrement pour le clergé, qui voyait son prestige et son écoute s'étioler chaque jour davantage, tant et si bien qu'au chapitre 11 de l'évangile de Jean, il y est écrit « Alors les principaux sacrificateurs et les scribes assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. » Mais cela étant rappelé, nous devons également nous souvenir que leur animosité à l'égard de Jésus, pour ne pas parler de leur haine, ils la devaient tout d'abord et avant tout au fait que cet obscur charpentier de Nazareth a osé l'impensable. Il a osé l'impensable. Il affirmait qu'il était le Fils du Dieu vivant et éternel. Chose qui était pour intolérable, un sacrilège, et c'est pourquoi jusqu'au bout il voulait le pourchasser et le poursuivre à mort. Mais pour l'heure, ils l'abordèrent pour l'éprouver en lui demandant de leur faire voir un signe venant du ciel. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Une démarche qui, à première vue, pourrait sembler anodine, innocente, mais dont le but, au final, le but avoué, n'était autre que de confondre devant tous Jésus, de l'accuser de mensonge et d'orgueil, tout comme d'usurpation d'identité, si d'aventure il avait accédé à leur demande. Et leur offrait ainsi l'occasion de lui dire « Tu affirmes être le Fils de Dieu. Tu déclares également ne pas parler de ton chef, de ta propre autorité, et que tu es descendu du ciel pour faire non pas ta volonté, mais la volonté de ton Père céleste. Mais alors dis-nous, explique-nous, en répondant à notre demande, quelle volonté viens-tu d'accomplir ? Celle de ton Père ou la tienne ? Et ainsi, vous l'aurez compris, ils auraient tellement aimé prendre Jésus en défaut, de mettre en évidence de telles contradictions dans sa vie, mais combien c'était mal connaître celui qui saute les cœurs et les reins. Car pour toute réponse, Jésus leur dira ce jour-là, leur montrera non seulement la futilité de leur démarche, mais également l'inutilité de leur demande. En effet, il leur dira ce jour-là en substance, vous êtes versés dans les Saintes Écritures, et qui par surcroît avait l'intelligence des secrets de la nature, puisque vous êtes capable de dire le soir il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car il est d'un rouge sombre, versets 2 et 3. Vous me demandez un signe venant du ciel, c'est-à-dire de l'ordre de l'extraordinaire. Mais alors dites-moi, quelle utilité peut-il avoir pour vous, puisque vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et ce temps est celui que vous vivez. Oui, vous êtes incapable, sans quoi depuis longtemps déjà vous auriez compris et reconnu que ma venue dans ce monde, mon message, tout comme mes miracles, dont vous êtes les témoins pourtant, sont le signe Ils sont le signe du ciel par excellence de ma divinité. Mais voilà, aveuglés par votre orgueil et votre incrédulité et votre haine, il vous est impossible de juxtaposer les événements du temps présent à la parole prophétique qui parle de moi, qui a annoncé ma venue, et de voir s'il y a une correspondance, une concordance entre les deux. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Aussi va-t-il leur envoyer alors au récit de Jonas qu'ils ne pouvaient ignorer, mais dont ils n'avaient pas compris et ne comprendront pas jusqu'au bout la similitude, la concordance qui existait entre les 3 jours et 3 nuits qu'ils devaient passer dans les entrailles de la terre suite à sa crucifixion et les 3 jours et 3 nuits qu'avait connu Jonas dans celle du grand poisson, avant que Dieu ne le fasse remonter vivant de la fosse, tout comme il en fut pour son messager envoyé à Ninive. Et le texte de conclure, puis il les quitta et s'en alla. Ainsi donc, sans prendre la peine d'expliquer jusqu'au bout sa pensée et de la développer, il les abandonna à leur incrédulité et à leur orgueil, après leur avoir toutefois signifié au préalable qu'il ne sera donné à cette génération méchante et adultère d'autres miracles que celui de Jonas, verset 4. Alors voilà, jusqu'à présent, nous avons essayé de cerner, j'ai essayé de cerner autant que se peut la démarche, le but poursuivi par les pharisiens et leurs comparses. Nous avons également considéré la sévérité du réquisitoire de Jésus-Christ à leur égard. Aussi, avant de refermer nos Bibles, j'aimerais m'arrêter avec vous une dernière fois sur ce qui me semble être la pensée centrale, charnière de ce texte, et qui est ce discernement des signes des temps, qui visiblement a fait cruellement défaut aux pharisiens et aux sadducéens, et qui est, comme déjà souligné, cette faculté spirituelle qui nous permet de juxtaposer le temps dans lequel on évolue à l'enseignement de la parole de Dieu et voir, déterminer s'il y a une concordance, s'il y a une similitude, s'il y a une correspondance entre eux. Et pourquoi prendre la peine de nous y arrêter, sinon parce que c'est un aspect de la Bible dont on ne parle que très rarement, mais qui est important, précieux et malheureusement rare, dont la tribu d'Issacar, toutefois, a pu se targuer, se prévaloir à l'occasion du couronnement du roi David, et je m'explique. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, il est rapporté qu'à l'occasion de cette investiture royale qui s'est déroulée à Hébron, en signe d'allégeance au nouveau monarque, les 12 tribus d'Israël lui ont envoyé chacune des hommes de guerre, des soldats, pour un total de plus de 350 000 hommes. Les uns sont présentés dans le texte comme étant vaillants, de renom, d'autres courageux, portant des boucliers, des lances, tandis que d'autres encore, et j'en passe, étaient munis pour le combat de toutes les armes de guerre prêts à livrer bataille d'un cœur résolu, est-il écrit. Bref, face à David, il y avait alors une armée d'élite bien équipée, prête à le servir sans réserve, ainsi que le pays, mais qui pourtant n'aurait été qu'une armée au pied d'argile, des plus vulnérables, s'il lui avait manqué l'essentiel, et qui est précisément ce que la tribu d'Issacar a comblé par sa contribution en mettant à sa disposition 200 hommes et leurs frères sous leurs ordres. 200 hommes qui avaient ceci de particulier, ils avaient, est-il écrit, l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence, le discernement des temps pour savoir ce que devait faire Israël, et bien sûr, et par là même son armée. Et combien Un tel cadeau, on peut l'imaginer, a dû être précieux pour la nation d'Israël lors de ses nombreuses guerres qu'elle a dû mener. En 1948, avant même que ne retentisse la proclamation de l'État d'Israël et qu'à Jérusalem 100 000 hommes, femmes et enfants subissaient depuis de longs mois déjà, sous l'œil bienveillant des Anglais, un blocus implacable, Ben-Gourion, personnage qui n'est plus à présenter, a fait parvenir dans la ville assiégée un nommé David Sheltiel, avec pour mission de tout mettre en œuvre afin qu'aucune parcelle de terre de la terre juive ne soit abandonnée aux mains de l'ennemi. Et alors que ce dernier installait, les unes après les autres, des réformes impopulaires, prenait des décisions des plus drastiques en vue de contrer les plans et les actions de l'ennemi, une très forte voix s'est élevée alors pour dire au sujet de cet homme, c'est la première fois que nous avons un chef qui sait où nous allons. C'est la première fois que nous avons un chef qui sait où nous allons. Et là aussi, nous pouvons nous imaginer combien pour les assiégés de la cité millénaire, il a été réconfortant, précieux et encourageant de savoir qu'à leur tête, il y avait enfin un chef, un homme qui savait exactement quel était le chemin à prendre et ce qu'il fallait entreprendre afin de traverser avec eux l'épreuve dangereuse et meurtrière que leur imposaient sans merci les Arabes. Et ainsi, David Sheltiel est et restera dans la mémoire collective de son peuple un homme qui, tel les envoyés de la tribu d'Issacar, avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Un exemple qui, me semble-t-il, devrait nous interpeller pour le moins et revêtir d'autant plus d'importance à nos yeux qu'en tant qu'enfant de Dieu, sauvé par sa grâce, sa parole nous avertit, nous enseigne, nous rappelle que nous aussi, nous sommes environnés d'ennemis et que le combat que nous avons à mener n'est pas contre la chair et le sang, comme l'écrit l'apôtre Paul, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi, dans cette lutte inégale, nous avons d'autant plus besoin du secours de l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire sur ce que nous dit la Bible concernant le temps dans lequel nous évoluons et le timing de Dieu pour nos vies. Pour ne l'avoir pas pris en compte, souvenons-nous, Israël a perdu bien des combats et il lui a fallu vivre, errer 40 années dans le désert. D'où l'importance pour nous, et nous ne le rappellerons jamais assez, de connaître la parole de Dieu, non pas seulement au travers d'une lecture furtive qui nous caractérise si souvent, mais au travers d'une étude personnelle, sérieuse, soutenue dans la prière et la foi. S'adressant aux pharisiens et aux sadducéens, Jésus leur a dit ce jour-là, « Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne le pouvez pas. C'est pour vous une impossibilité. » Quel terrible constat, sans appel que celui-là, qui devrait, car la sagesse l'impose, nous amener à nous poser la question suivante, et nous, où en sommes-nous? Que dirait Jésus à mon sujet, dans ce domaine? Ou si vous le voulez, quel spectacle lui ai-je offert à ce jour? Est-ce celui d'un homme ou d'une femme dont le discernement des signes des temps est aiguisé? Ou bien satisfait de ma petite vie chrétienne, de mon salut, du béaba de l'Évangile? Car délibérément, j'ai mis de côté dans mes lectures de la Bible tous les textes, tous les livres prophétiques, les estimant trop ardus, trop difficiles à cerner. Que de fois n'ai-je pas entendu une telle excuse? Quoi d'étonnant dès lors que je n'ai aucune idée, qu'une idée vague, imprécise du temps présent par rapport à ce que m'enseigne la Bible. Alors oui, dans quel cas de figure puis-je me situer, m'inscrire? Dans la première, parce que j'en suis toujours au lait spirituel, ou bien par la grâce de Dieu et de ce qu'il me donne de découvrir dans la Bible, enrichi de cette faculté spirituelle, de ce don qui est le discernement des temps, je peux parler de la concordance qui existe entre la parole divine et les événements qui marquent de leur empreinte notre siècle. Dans le dernier en date, et je ne vous apprendrai rien, est le coronavirus qui ébranle et fragilise le monde, l'économie, et qui n'est autre qu'un signe précurseur des fléaux horribles qui attendent notre monde. Et qu'il nous rappelle, s'il le fallait encore, que notre temps est celui de la fin, des derniers jours. Je me demande si, dans quelle mesure, nous en sommes vraiment conscients. Aussi, écoutons ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. Au chapitre 3 de sa deuxième épître à Timothée, où sans embâche il présente notre temps comme étant un temps difficile, il dira « Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, j'en passe, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et d'ajouter un peu plus loin au chapitre 4 que ce temps est celui où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais en démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dites-moi, n'est-ce pas là ce à quoi nous assistons plus que jamais? Bien sûr que oui. Et Dieu, dans la prophétie d'Ézéchiel, déclare aux hommes que ce temps vient, que ce jour approche où Dieu va répandre sa fureur pour assouvir sa colère, chapitre 7, versets 7 et 8. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 5, 16, nous sommes appelés à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et à nous conduire avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage, dira Jésus, car nous ne savons pas quand ce temps viendra. Marc 13, verset 33. Pour moi, le temps maintenant est celui de m'arrêter. Mais j'aimerais formuler un souhait, qui est le suivant. Puissions-nous, dans ce temps que la Bible présente comme étant celui des derniers jours, puissions-nous chacun et moi le premier, pour l'avancement du règne de Dieu ici-bas, être à l'image des chrétiens de Rome. Ces chrétiens du premier siècle auxquels l'apôtre Paul pouvait dire « Vous, vous savez ». Aux pharisiens et aux sadducéens, Jésus a dit « Vous ne pouvez discerner les signes des temps ». Aux chrétiens de Rome, Paul dira « Vous savez ». Vous savez dans quel temps nous sommes. Et d'ajouter, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant c'est le temps. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, verset 11. Amen.